Si l'on veut bien considérer l'histoire des pratiques d'édition en Belgique francophone comme une succession d'apparitions et de disparitions, comme on vient de le voir, de naissance et de déclin, la question mérite d'être posée en des termes identiques pour les réalisations les plus récentes, soit à ce qu'il serait convenu d'appeler l'après-marabout. En d'autres termes, se demander si les années 1970, 70 et au-delà ont vu l'édition belge renaître à nouveau de ses cendres, entrer dans une nouvelle ère et se diriger vers un créneau spécifique, ou si au contraire l'édition belge rampe aujourd'hui péniblement parmi les restes désordonnés de ces multiples âges d'or enfouis, sans parvenir à se trouver. La tâche n'est pas aisée, d'autant plus que la guette à tout moment l'aveuglement de celui qui observe de trop près, sans un suffisant recul. Un trait spécifique peut néanmoins d'emblée être mis en évidence, en première approche, à savoir que le secteur a vu sa disposition au changement subir une accélération considérable au cours des 30 dernières années. Au règne d'îlots industriels familiaux dotés d'une grande stabilité dans le temps, s'est substituée une époque de grands mouvements, de grands transferts qui ont contribué à refaçonner le paysage éditorial. Ce bouleversement tectonique constitue un bon point de départ de l'ordre du constat. On connaît le fabuleux destin de la concentration du champ de l'édition française depuis la symbolique adoption en 1919 par la société en nom collectif Louis Hachette et compagnie des statuts de société anonyme, fait régulièrement cité, et donc de 1919 à la situation de monopole faramineux et provisoire du même éditeur en 2002. Moins médiatisées, étudiées et spectaculaires sont les mutations de l'édition francophone belge. Moins spectaculaires dans la mesure où les restructurations ont avant tout consisté, à la différence de ce qui s'est passé en France, en une implantation progressive et discrète d'acteurs étrangers. Processus spectaculaire dans la mesure où il en allait corollairement de la perte de l'identité strictement belge des maisons d'édition concernées, et parmi les plus prestigieuses d'entre elles, mais très peu spectacularisé pour les raisons qui ont été exposées dans la communication précédente, à savoir la conscience inexistante d'une culture nationale à défendre. Parallèlement à cet élargissement, bon nombre de restructurations au niveau national cette fois pour cause de fusion, de cession de parties de catalogue ou de faillite ont favorisé la concentration du secteur. Processus assez peu spectaculaire ici, étant donné la faible ampleur des regroupements et l'absence d'un monopole avéré comme l'avait été celui d'Hachette. En matière d'implantation, l'ancrage international d'une enseigne francophone belge n'est pas un phénomène nouveau. On peut citer parmi d'autres, en 1857, Casterman qui dépasse les carcans belges en se dotant d'une succursale à Paris, puis en 1962 aux Pays-Bas. Même combat pour Dupuis, aux Pays-Bas en 1934, puis à Paris en 1950. Idem pour Desclée et ses bureaux à Rome, Marseille, Lille, Paris, New York, ou ses missions de repérage en Europe et en Amérique du Nord. Idem pour Emma, éditeur de livres pour la jeunesse, qui crée une filiale française dans les années 1950. Et que fait enfin symboliquement Marabout, avec son club international des chercheurs marabouts, sinon tenter de s'imposer internationalement selon un mode réticulaire. Si les antécédents à la dimension supranationale des structures éditoriales belges sont nombreux, un bouleversement des logiques à l'œuvre s'opère toutefois au cours des années 1970. L'expansion ne passe plus par l'implantation d'une maison par-delà les frontières, mais par une dépendance à l'égard de groupes étrangers. À ce titre, les éditions Marabout inaugure mieux qu'aucune autre le lancement de cette ère de l'après-marabout. En 1973, la société devient la société anonyme Marabout pour faire appel à des capitaux extérieurs. La compagnie Bruxelles-Lambert, du financier belge Albert Frère, y entre en 1975, suivie de peu en 1976 par Hachette, spécialisée comme Marabout dans les livres de poche, ce qui n'a pas manqué de faire observer à l'époque que ce rapprochement, par-delà tout caractère aléatoire, tendait à maîtriser de près un concurrent de taille. et Hachette renforcera effectivement au fil des ans son influence sur la maison verviétoise. À l'époque où Marabout fait l'objet d'une prise de participation par un éditeur français, la maison est l'une des trois plus grandes maisons belges. Cet intérêt pour les structures éditoriales les plus imposantes ne se démentira pas par la suite. Considérons les deux secteurs économiquement les plus porteurs de l'édition belge, la bande dessinée et l'édition pour la jeunesse, et suivons leur évolution dans ces années-là. Dans le secteur de la bande dessinée, les trois éditeurs industriels qui avaient fait les beaux jours de l'édition belge, Casterman, Dupuis et Le Lombard, se trouvent peu à peu et sans exception dès les années 1980 absorbés par des groupes étrangers. En octobre 1984, Dupuis passe sous la tutelle de Hachette et du groupe Bruxelles-Lambert. En 1986, ce sont les éditions du Lombard qui sont rachetées par la société Média Participation, suivies de peu par Dargaud Benelux en 1987-1988. Casterman rejoint Flammarion en 1999, lequel est lui-même racheté en 2000 par l'italien Rizzoli Corriere della Sera. Et non content de posséder Dargaud Lombard, déçu d'avoir raté Casterman, le groupe Média Participation s'empare enfin des éditions Dupuis en 2004. L'édition pour la jeunesse, maintenant, s'est trouvée pareillement touchée par une internationalisation doublée de restructuration sur le plan national. Au tout début des années 1970, une bande des cinq, dont certains déjà cités, donc dans ceux qui ont déjà été cités, donc Casterman et Marabout, qui sont aussi présents en littérature pour la jeunesse, mais auxquels on peut ajouter donc Desclés, Emma et Duculot. Donc cette bande des cinq offre un portrait assez représentatif de ce qu'est alors l'édition belge pour la jeunesse, à savoir un ensemble d'éditeurs avec diffusion ou ancrage international, activité d'imprimeur et optique industrielle. Les premiers mouvements en édition pour la jeunesse commencent, comme nous l'avons vu, dans le courant des années 1970 avec Marabout, suit le rachat du capital de Desclés de Brouwer par le groupe des publications de la vie catholique en 1982. Groupe de presse qui sera lui-même absorbé par Le Monde en 2003, lequel se séparera des éditions Desclés de Brouwer en 2006, vendu à un éditeur suisse plutôt jeune et de petite taille, et nommé Parole et Silence. Du côté des éditions Emma, on voit que la maison, pour poursuivre son activité, fait entrer de nouveaux actionnaires, Albert Frère et le groupe de la Cité, à raison de 40% l'un et l'autre. En 1994, la participation du groupe de la Cité est portée à 80%, et puis le même, devenu Vivendi Universal entre-temps, devient propriétaire d'Emma en 2000. Après l'explosion du groupe, Emma passe aux mains d'Editis en 2004. Simultanément à ces mouvements internationaux, des remous voient le jour au niveau national. Ainsi, en 1993, les actionnaires des éditions Duculot cèdent la totalité de leur participation au groupe De Book, où passent les ouvrages linguistiques et scientifiques de Duculot, et d'autre part à Casterman, où passe la littérature pour la jeunesse et les beaux livres. Et 15 ans plus tard, on l'a dit, Casterman appartient par-delà un groupe français à un groupe italien. Voilà pour un premier aperçu vraiment de ces grands mouvements donc, qui bouleversent le paysage de l'édition belge. Alors je passe maintenant à un autre facteur, à un autre type de transformation. Et donc, commencerai par faire observer qu'au milieu des années 1970, un jeune chercheur liégeois qui s'appelait Yves Oinquin, qui s'appelle toujours Yves Oinquin, est à l'initiative donc des premières recherches socio-économiques sur le domaine de l'édition belge, pouvait faire observer la part prépondérante des éditeurs qui étaient restés les imprimeurs qu'ils étaient à l'origine. Il comptait donc 123 professionnels en activité en 1973, et parmi ces 123, un tiers jouait sur les deux tableaux, donc de l'édition et de l'imprimerie, un tiers, alors qu'en France, à la même époque, on est à 5%. Donc une très très grande différence. Bien que les chiffres de la proportion d'éditeurs-imprimeurs au sein des éditeurs professionnels soient absents pour les années ultérieures, les mutations évoquées à l'instant comblent partiellement le vide et apportent des éléments décisifs dans la compréhension de l'évolution du paysage éditorial dans ses relations avec l'imprimerie. Concernant en effet les acteurs industriels suivis jusqu'ici, acteurs de taille importante ou moyenne, adossés à une activité d'imprimerie, apparaissent assez nettement et de manière exhaustive l'abandon ou la disparition des activités d'impression. Une illustration assez symptomatique de cette évolution peut être trouvée dans les conditions de vente de Casterman à Flammarion en 1999, alors que la société se composait de deux pôles complémentaires, donc d'une part l'édition à Bruxelles et d'autre part l'imprimerie à Tournai, mais on voit que le dispositif d'impression de Casterman est laissé de côté au moment du rachat. En cause, la faible rentabilité du secteur et les deux branches distinctes vont continuer à collaborer quelque temps, mais en 2002, l'imprimerie fait aveu de faillite. Elle a perdu le monopole des annuaires téléphoniques qu'elle imprimait depuis plusieurs décennies, donc elle les perd en 1998, et les commandes d'édition de Casterman se raréfient de plus en plus. Et le tout dans un contexte où les pertes de l'imprimerie ne peuvent pas être compensées par l'édition et inversement. Donc faillite pour l'imprimerie Casterman, et elle sera finalement aidée par la région Wallonne qui essaye de la relancer et reprise ensuite alors par un groupe qui s'appelle le groupe Evadix. Par-delà Casterman, dans la plupart des rachats évoqués, on voit que le prestige du nom de la maison d'édition, son fond ou ses aptitudes proprement éditoriales ont été au centre de la négociation. La responsabilité de la séparation entre édition et imprimerie ne doit donc pas être imputée totalement au grand remous de l'édition, puisqu'on voit que dans certains cas, le rejet de l'imprimerie leur est antérieur. C'est le cas par exemple des éditions donc Emma, que je disais tout à l'heure, donc est spécialisée en édition pour la jeunesse. Mais dans beaucoup d'autres cas, la séparation édition-imprimerie est simultanée. C'est le cas de Casterman, on l'a vu, c'est le cas aussi de Dupuis, et ce sera le cas aussi de Marabout. Par conséquent, cette perte de l'imprimerie doit être envisagée comme une tendance du long terme, tendance que l'ère de l'internationalisation des structures vient parachever, si elle ne l'était pas encore. En somme, l'histoire du secteur de l'édition belge à partir des années 1970 est celle d'une double perte d'influence. Diminution drastique du pôle imprimerie, tout d'abord, et du pôle imprimerie parmi ses poids lourds en particulier, et dénationalisation, entre guillemets, de la plupart de ses enseignes industrielles d'autre part, dénationalisation qui culminera en 2007 avec le rachat par Editis du groupe De Book. Peu à peu privé des industriels qui avaient forgé son identité, moins spécifiquement lié à l'imprimerie que par le passé, l'édition belge se retrouve en quelque sorte, du coup, en quelques années, vidée de son contenu, et à moins de n'être qu'une antenne de l'édition internationale, et plus particulièrement française, elle doit mettre au point de nouvelles stratégies. Et ce sont ces stratégies que je vais maintenant passer en revue. Dans les secteurs de la bande dessinée et du livre pour la jeunesse, les grandes mutations qu'on vient de passer en revue coïncident avec une réévaluation des créneaux éditoriaux dominés, dans lesquels elles s'étaient particulièrement illustrées, créneaux qui se trouvent investis de valeurs inédites jusqu'alors, avec l'essor d'une bande dessinée et d'une production pour la jeunesse en voie de légitimation. Donc on pense, dans le domaine de la bande dessinée, à ce renouveau de la nouvelle bande dessinée, donc le développement d'une bande dessinée dite pour adultes. Illustrée tout particulièrement en France avec une enseigne comme Futuropolis, fondée en 1972, puis par la relève des éditeurs dits indépendants dans les années 1990, à l'instar de l'association ou de Cornelius, la dite nouvelle bande dessinée ne trouve d'abord un accueil que très mitigé parmi les leaders du genre belge que sont Casterman, Dupuis et Le Lombard. Empêtrée dans une tradition catholique et soumise à des exigences de rentabilité, les maisons ne saisissent pas la balle au bond On peut citer quelques tentatives, par exemple du côté de Dupuis, donc il y avait le magazine Spirou. On voit apparaître dans ces années-là un supplément qui s'appelle le Trombone Illustré, qui s'adresse aux adultes, mais c'est un supplément qui ne durera pas. On peut citer aussi parmi d'autres tentatives, toujours chez Dupuis, le lancement de la collection Air Libre, qui s'adressera à un public adulte et qui survit aujourd'hui encore. Par contre, Casterman tente la reconversion avec la revue À suivre, qui s'adresse à un public adulte, mais cette revue, elle aussi, finira par disparaître. Donc le renouveau n'est pas tellement à chercher du côté de ces grandes maisons traditionnelles. Pourtant, une génération d'éditeurs va voir le jour entre 1976 et 1984. Une génération qui aurait pu prendre le relais. Ces maisons sont localisées pour la plupart à Bruxelles et elles réussissent à s'affranchir de la double tutelle de l'Église et de l'imprimerie, mais sans incarner tout à fait pour autant le renouveau de la bande dessinée. À l'imprimerie, en effet, ces éditeurs substituent le commerce du livre. Deux tiers environ d'entre eux sont avant tout libraires et avant tout à son importance ici. Et à la valorisation d'une bande dessinée de création, nombre d'entre eux opposent souvent la nostalgie en rééditant des planches issues d'illustrés d'avant-guerre. À la fin des années 1980, tous ces éditeurs, parmi lesquels on pourrait citer BDScope ou Magic Strip, nom aujourd'hui à peu près totalement oublié, eh bien tous ces éditeurs disparaissent sans exception. La génération suivante, avec des noms comme Fréon, qui donnera lieu à la maison Frémok en fusion avec un éditeur français qui s'appelle Amok, donc Fréon ou la cinquième couche, eh bien cette génération saura mieux porter les nouveaux enjeux du genre, de la bande dessinée, tout en restant confrontée aux mêmes difficultés de maintien et de développement, et au premier rang desquelles la difficulté de l'accès à la diffusion-distribution, en France principalement. Voilà pour la bande dessinée, et le scénario est à peu près identique en édition pour la jeunesse, où l'on retrouve la même incapacité à saisir la légitimation du genre tout d'abord, qui évolue lui aussi comme la bande dessinée, et où l'on retrouvera aussi les mêmes conditions précaires. À titre d'exemple, parmi les trois éditeurs spécialisés en livres de jeunesse de création récente, eh bien, il en subsiste aujourd'hui un et demi. Premièrement, on a les éditions du Pépin qui ont été créées en 1999 et qui ont disparu. Les éditions Mijade créées en 1993 qui, elles, semblent parties pour durer, donc ça en fait un. Et quant à Pastel, par contre, qui est créé en 1988, il s'agit évidemment d'une antenne belge, de l'antenne belge de l'École des loisirs, maison d'édition française, donc on peut considérer qu'elle vaut pour une demi-maison, donc d'où un et demi parmi les survivants. Malgré des signes avant-coureurs assez inquiétants, la reconfiguration du champ éditorial belge n'a pas été suivie de près par les pouvoirs publics. Façonnée, elle aussi, par les traits historiques de l'édition belge, ce n'est que très lentement que les politiques du livre ont su s'adapter aux nouvelles réalités. Afin d'aider les éditeurs émergents à s'extirper des réflexes hérités du passé et faciliter leur intégration au renouveau des genres dits mineurs ou dominés, dont la dimension créative émergente risquait justement d'exclure les éditeurs belges au profit des éditeurs français, mais des mesures auraient sans doute pu être prises, des mesures d'encadrement. Qu'on songe par exemple à l'instauration d'un prix unique du livre qui reste un des grands absents en Belgique, ou à des mesures d'encadrement plus proches d'aide à la création dans ces genres. Alors, concernant l'aide à la création, elle a vu le jour, mais au tout début du XXIe siècle. Et à ce titre, les générations intermédiaires, donc celles des années 1980 et 1990, qui tentaient tant bien que mal de dépasser cet habitus techniciste belge qui semble un peu empêtrer les éditeurs dans des réflexes hérités du passé, eh bien ces générations font figure partiellement de générations sacrifiées. sans masse critique suffisante de producteurs capables de s'adouber mutuellement, sans politique explicite en la matière qui permettrait de susciter le rassemblement, l'édition belge ne connaîtra donc pas, au cours de ces années, le développement d'une édition indépendante, entendue ici comme fédération d'éditeurs de création, fédération consciente d'elle-même. Donc pas de fédération de ce type en Belgique. Voilà pour les genres dominés. Y a-t-il eu néanmoins renaissance ailleurs ? Et la réponse est oui. Renaissance toute contestée au demeurant, et ce sera ici mon dernier développement. Un acteur d'un genre nouveau allait en effet voir le jour au milieu des années 1990 et renouait avec la créativité positionnelle d'un éditeur comme Marabout, tout en bouleversant l'équilibre du champ à son tour. En 1994, Luc Pire, administrateur délégué de la société anonyme Tournesol Conseil, il est administrateur de cette société depuis 1991, eh bien Luc Pire, en 1994, fonde une maison d'édition à son nom. Il a un passé de journaliste, il a été créateur de la carte jeune en Belgique, il a été expert à la Commission européenne, et donc ce fondateur est doté d'un capital social assez remarquable, non négligeable, et va l'exploiter entièrement en investissant le créneau du livre événement. Les éditions Luc Pire vont créer un raz-de-marée en se focalisant sur les sujets brûlants, sans revendication de quelconque affiliation politique, hormis le refus de l'extrême droite. Après 5 titres publiés la première année, l'éditeur passe à 40 titres par an en 1998, donc 4 ans plus tard, et plus de 50 en 1999. Une fine stratégie de rapprochement avec la presse est menée la même année, donc en 1999. Avec l'entrée à 50% dans le capital de la société Tournesol, des groupes Vlan-Rossel et Grains Echo, donc deux groupes de presse assez puissants. S'ensuit ensuite une stratégie de diversification de la maison, donc des éditions Luc Pire, qui en 2004 vont racheter un autre éditeur belge tombé en faillite, la Renaissance du Livre, qui est spécialisé dans le beau livre, et ensuite du Grand Miroir, qui est spécialisé pour sa part dans la littérature. Et ces deux maisons donc étaient en liquidation judiciaire. Donc on voit comment cette maison, partie du livre événement, du livre d'actualité, entreprend peu à peu une démarche de diversification pour devenir une maison donc de type généraliste. Et après 10 ans seulement d'activité, l'éditeur Luc Pire rejoint le panthéon des éditeurs industriels historiques, à l'ampleur pouvant séduire les groupes étrangers. En 2005, en effet, Luc Pire cède 76% des parts de la société de communication Tournesol Conseil au groupe RTL TVI de l'Empire Bertelsmann. Donc RTL TVI, qui est une chaîne de télévision donc très, très importante en Belgique francophone. Si le cas de Luc Pire est un signe encourageant du renouvellement du paysage éditorial belge, bien qu'il n'en fasse déjà plus tout à fait partie, ces diversifications les plus récentes, par un jeu de chaises musicales inattendu, viennent interroger à leur tour la politique du livre en communauté française de Belgique. Longtemps absent des genres dominés, comme je l'expliquais tout à l'heure, les pouvoirs publics avaient largement investi l'édition littéraire. Tout d'abord en 1973, avec la création d'une collection patrimoniale, Espace Nord, portée par les éditions Labor, un éditeur scolaire de renom, fondé dans les années 1920. Patrimoniale, la collection entendait défendre les grands textes littéraires francophones. Donc c'était vraiment le premier projet, donc Espace Nord. Et ensuite, dès 1976, le lancement de la collection Passé-Présent, chez l'éditeur Jacques-Antoine, qui sera reprise ensuite par les éditions des Éperonniers. Subsidiés par les pouvoirs publics, Passé Présent et Espace Nord deviennent en quelques années le Saint Graal de l'édition littéraire belge, porté par une volonté d'autonomisation de la littérature francophone belge à l'égard de Paris et de conquête de reconnaissance. Donc à titre tout à fait comparatif, Espace Nord et Passé Présent font figure d'une certaine manière, sans le côté massif, je vais dire, d'une collection comme la Pléiade. On est dans le même registre avec apparat critique et des choses comme ça, mais de façon beaucoup plus modeste. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ces collections patrimoniales après avoir évoqué Luc Pire? Bien, on va voir que par un enchaînement que je ne pourrais pas restituer ici dans sa totalité, ces collections allaient se retrouver donc liées au destin de Luc Pire. Elles ont été frappées en fait par trois incidents, mais j'en citerai trois ici. Le premier incident a lieu en 2005, à savoir que les éditions Labor sont reprises par une société de packaging industriel qui s'appelle TXT Media. Donc c'est le premier incident, je vais dire, qui frappe une maison porteuse d'un projet donc patrimonial. Et j'y reviendrai. Deuxième incident, la même année, le nouveau groupe Labor, qui appartient désormais à TXT Media, rachète les éperonniers qui étaient tombés en faillite, éperonniers qui portaient pour leur part la collection passé-présent. Donc autrement dit, qu'est-ce qui se passe avec ces deux premiers incidents? On voit tout d'abord que une collection patrimoniale dans laquelle les pouvoirs publics avaient investi énormément d'argent tombe en faillite. Premier problème. Ensuite, ce qui se passe, c'est que un seul acteur, suite à ces incidents, et cet acteur c'est Labor, bien un seul acteur se retrouve aux commandes des deux collections patrimoniales portées par les pouvoirs publics, à savoir donc Passé-Présent et Espace-Nord. Et enfin, donc ce Labor, qui avait ces deux collections, appartient à une société de packaging, ce qui faisait craindre pour l'avenir des collections, et à juste titre. À juste titre, parce que de façon totalement inattendue, les éditions Labor cèdent 50 titres de la collection Espace Nord à une chaîne de solderies, et donc sans avertir évidemment les pouvoirs publics. Et on l'apprend parce qu'on voit effectivement sur le parvis de ces solderies un petit tourniquet avec des volumes de la collection Espace Nord qui sont vendus donc au prix très symbolique de 1 euro, ce qui est évidemment assez catastrophique pour l'avenir de la collection. Donc ça, c'est le premier problème. Parmi les autres, ben, on s'aperçoit que Labor ne paie que de façon très irrégulière les droits d'auteur des auteurs. Et finalement, Labor cesse tout simplement d'encadrer la collection selon les termes du contrat, puisque c'était un encadrement de type scientifique, avec partenariat avec des institutions universitaires et autres. Donc voilà pour les deux premiers incidents et toutes leurs conséquences. Le troisième et dernier incident survient en 2007. Les éditions Labor, qui avaient déjà réussi à s'illustrer par différentes manœuvres, les éditions Labor explosent, littéralement, et ces départements vont s'acheter les uns après les autres. Si ce n'était déjà fait, les pouvoirs publics commencent à paniquer pour leur investissement. On ne sait pas ce que vont devenir les différents départements de la maison. Et on peut se demander donc, mais quel est le destin du département littéraire dans tout ça? Eh bien, le département littéraire est racheté par ce nouvel acteur que j'évoquais tout à l'heure, Luc Pire, éditeur de livres événements, des plus belles photos de la famille royale et d'ouvrages dérivés des émissions les plus populaires de la chaîne RTL TVI. Sans doute se situe-t-elle là la dernière naissance de l'édition francophone belge. Renaissance au centre d'une conjonction de nouveaux facteurs favorables, j'en cite quelques-uns. Tout d'abord, la proximité grandissante entre le livre et les autres médias, dont le livre n'est ici que le prolongement peu audacieux. Accélération ensuite de la rotation du livre, conçu par et pour le livre événement. Positionnement ensuite également d'un éditeur dans ce créneau qui n'avait pas encore ses représentations locales. Valorisation d'un capital social considérable au sein du champ de l'édition, donc le capital social de son fondateur, Luc Pire, et récupération enfin d'un prestige inespéré par le biais des politiques du livre en matière d'édition littéraire. Renaissance, mais Renaissance qui atteste également la permanence de l'habitus techniciste belge. Le livre-événement n'est en cela pas bien différent du beau livre, du bel objet. Encore une fois, du livre plutôt qu'un texte, mais peut-être Luc Pire concrétisera-t-il le premier, le mécanisme de la péréquation, où l'on verra le récit de la liaison Carla Bruni-Nicolas Sarkozy, la biographie de Justine Hénin ou de Johnny Hallyday, compenser les pertes du prochain Maurice Maeterlinck, du prochain Gelderode ou du prochain Henri Michaud. Merci.